Mais c'est pas tout. Lorsqu'un des représentants lui fait remarquer qu'on lui reproche d'avoir servi d'intermédiaire entre les deux clubs afin de graisser la patte à l'adversaire, la formule du footballeur laisse planer un doute. Insidieux. Lourd de sens. Mon rôle d'intermédiaire ? Ouais. C'est ce qu'on me met dans les souliers. Une bien drôle de phrase sur laquelle la presse n'hésite pas à appuyer. On confronte le sportif. S'il dit ça, c'est qu'il n'est pas le corrupteur, que d'autres, plus puissants, ont tiré les ficelles à sa place. Laconiquement, Guéretz ne se dérobe pas, bien au contraire. Il faut voir comment les choses ont commencé. Cela a commencé depuis un petit bout de temps déjà. Une influence ? C'est loin qu'on puisse dire. Le sportif coupe court à l'interview. La bombe qu'il vient de jeter provoque immédiatement énormément de remous. Effondré, le footeux, lui, perd tout. En quelques jours, on le déboulonne de son statut d'idole. Pour autant, il faut saluer cette prise de parole courageuse. Cette volonté d'assumer ses actes l'est tout autant. C'est clair, Guéretz a jeté un pavé dans la mare et l'opinion, elle, attend dorénavant des réponses claires. Si le barbu n'est pas le seul aux manettes, s'il n'a été qu'un intermédiaire mis sous pression, alors qui est le grand Manitou, l'instigateur de la corruption ? Le secrétaire général du club, Roger Petit ? Les autres joueurs ? Ou pire encore, le coach du Standard, le fameux Raymond Lascience. Ce que l'enquête va découvrir, à bien des égards, va contribuer à faire de cette affaire l'un des plus gros scandales nationaux des années 80. L'attention rapidement est de plus en plus vive. À Sclessin, on crie au complot. Le juge est vilipendé par de nombreux supporters. De la corruption ? Foutaise ! C'est un coup des mauves ou des autres clubs flamands. Qu'importe leur colère, les choses vont très vite. Bientôt, on apprend que la liste des joueurs impliqués par le scandale est longue comme le bras. Michel Preud'homme, Jos Dardenne, Walter Meus, Théo Poul, Simon Tahamata, Gérard Plesser et Guy Van Der Spissen. Tous ont accepté de verser leur prime de match, un montant de 30 000 francs belges par tête, afin de contribuer à corrompre l'équipe adverse. Parmi ces co-accusés, certaines des plus grandes stars du moment au Standard. La direction les pousse à avouer. Les têtes pensantes imaginent que les sanctions seront moindres si les joueurs annoncent avoir contribué à la magouille. L'objectif annoncé, convaincre avec le portefeuille l'adversaire de ne pas trop mettre d'intensité dans les duels, afin évidemment de se préserver pour la finale de Coupe d'Europe 4 jours plus tard. Les 420 000 francs belges, en somme, ont été donnés en guise de remerciement. Pour la justice, cette belle histoire aux allures de conte de fées ne tient pas. La presse, qui s'est jusqu'alors concentrée sur Guéretz, affiche sans ménagement les autres corrupteurs du football belge. Ils sont partout, dans tout le pays. Tout le monde en parle et l'équilibre du Standard se trouve menacé. Le club tremble, c'est une évidence. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. L'enquête du juge Guido Bellmans est particulièrement efficace. Il ne tarde pas à découvrir celui qui tire les ficelles de toute l'affaire. Lorsque le couperet tombe, cela a l'effet d'une bombe. Celui qui a orchestré la corruption de l'adversaire n'est autre que le coach de l'équipe, Raymond Goutals. Ils sont nombreux, lorsque l'info est relayée par la presse, à ne pas le croire. Et pourtant, cette affaire n'est en rien celle d'une simple enveloppe donnée à l'adversaire pour assurer sa mollesse sur le terrain. En réalité, l'entraîneur préparait son coup depuis des semaines avant le match décisif, comme l'a laissé entendre Éric Guéretz lors de sa prise de parole. Pour le comprendre, il nous faut remonter au moment charnière du championnat belge 1982. Goethals est au coude à coude avec son ancien club, le Sporting d'Anderlecht, pour obtenir le titre national. Deux points seulement séparent les deux équipes de tête et le coach, c'est un euphémisme, commence à devenir parano. Selon un joueur de l'époque, l'entraîneur annonce au cadre de l'équipe, quelque temps avant l'ultime partie décisive, qu'il faut préparer la valise. Mais pourquoi envisager de soudoyer un adversaire sur le papier bien plus faible que le Standard ? Dans son accès de méfiance, Raymond Goethals s'est persuadé d'une chose. Si les Rouges ne payent pas les joueurs de Waterskay, alors c'est le Sporting d'Anderlecht qui prendra les devants. Avant de coacher les Rouges, Goethals est resté 2 ans chez les Mauves, sans pouvoir autant remporter le Graal. Impossible donc pour lui de connaître l'ultime humiliation de voir son ancien club le coiffer au poteau. Il en est persuadé. Pour lui nuire, la direction du Sporting est prête à tout, même à payer ses adversaires directs. Vrai ou pas, le coach du Standard décide de prendre les devants et de coller la pression sur les épaules de son capitaine, Éric Guéretz. Pourquoi ? Parce que le barbu a des liens très étroits avec certains joueurs de Waterskay. Lorsque les deux hommes échangent pour la première fois à ce sujet, l'arrière est catégorique. Aucune raison de tenter quoi que ce soit. Après tout, les mecs du Limbourg aiment bien ceux du Standard et plus encore. Ils n'ont plus rien à jouer. Au pire, ce sera un nul et le petit point obtenu suffira aux Rouges pour être sacré champion. Mais le coach ne l'entend pas de cette oreille. Goethals insiste, sous-entend que les cadres qui ne soutiennent pas son idée vont se retrouver sur le banc pour les 2 derniers matchs décisifs de la saison. Alors, les joueurs plient et acceptent de verser chacun les 30 000 francs belges de leur prime de match. Il n'y a que Harry Hahn qui refuse d'entrer dans la combine. À ce stade, Éric Guéretz ne peut plus reculer. Il contacte son voisin et ami, le capitaine de Waterskay, Roland Janssen. Les deux hommes s'arrangent et le Limbourgeois accepte le pot de vin de 420 000 francs tendu par son homologue liégeois. Bon, la suite, on la connaît. Le Standard remporte le match l'air de rien, rafle son 7e titre et s'enfonce dans le mensonge. L'enquête du juge d'instruction, elle, n'est que la première étape d'une lente descente aux enfers pour tous les acteurs du dossier. La Royal Belgium Football Association, au mois d'avril 1984, statue sur le sort des dirigeants et des joueurs liégeois impliqués. Vous pouvez me croire, les sanctions qui tombent vont chambouler bien des destins. Le plus gros perdant du scandale déjà est connu, c'est le Standard de Liège. Il ne sera pas le seul. Dans quelques mois, la Belgique va jouer l'Euro en France. Et si les diables devaient entamer la compétition sans les joueurs du Standard impliqués ? Personne ne peut décemment l'imaginer. Et pourtant, la fédération, elle, va être sans pitié. Avril 1984. La Royal Belgian Football Association, dans un climat délétère, annonce les sanctions prises contre le Standard. Le club ne perd pas son titre, n'est pas condamné, le tout grâce à la prescription. C'est bien la seule bonne nouvelle. Le secrétaire général Roger Petit perd toute possibilité de travailler dans le monde du foot. Le coach Goethals, lui aussi, est radié. Les 8 joueurs impliqués, de leur côté, reçoivent des peines diverses. Tous, sauf Guéretz, prennent 1 an de suspension. Le capitaine et intermédiaire dans l'affaire prend 3 ans de suspension. Une éternité pour un footballeur professionnel. Un jugement que l'avocat conseil du Standard qualifiera de sévère.
Décision très sévère, mais j'ai suffisamment l'habitude d'entendre des jugements pour pouvoir vous dire maintenant que le commentaire n'est pas de mise. Ça, je ne peux pas critiquer un jugement alors qu'il vient d'être rendu à chaud. On est dans l'émotion du moment.
Il n'y a que Ariane qui parvient à convaincre la fédération. Il est acquitté. Le ciel, assurément, tombe sur la tête du football belge. Il faut bien comprendre que les joueurs concernés par l'affaire, pour beaucoup d'entre eux, sont les plus grosses stars du championnat. Le club, qui s'attendait à passer entre les gouttes, est estomaqué. Il se pourvoit en appel face aux décisions prises, avec le mince espoir de se tirer d'affaire. La démarche est rapidement menée. À sa suite, les peines sont allégées pour les joueurs. Jos Dardenne, Walter Meus, Théo Poul, Simon Tahamata, Michel Preud'homme, Gérard Plesser et Guy Van Der Spissen voient leurs sanctions ramenées à une suspension de 6 mois. Eric Gerets, lui, prend 2 ans, au lieu des 3 années prévues initialement. L'entraîneur de l'équipe, de son côté, voit sa peine inchangée et prend la poudre d'escampette au Portugal. Sa carrière va pouvoir continuer. Le secrétaire général du club, Roger Petit, est radié définitivement. Un long chemin de croix débute alors pour l'un des plus grands clubs du pays. Il mettra plus de 20 ans à se remettre. Les sanctions qui tombent sont lourdes, très lourdes même. D'un point de vue sportif, le Standard se voit privé de la plupart de ses forces vives. Dans son malheur, il profite de la prescription pour ne pas être déchu de son titre de champion, ou pire, être sanctionné d'une peine de rétrogradation. Son équipe diminuée se prend les pieds dans le tapis en finale de la Coupe de Belgique. Le sésame lui passe sous le nez. Son avenir à plus long terme, c'est très clair, semble compromis. Pointé du doigt par l'ensemble des acteurs du foot belge, les Rouges rentrent dans le rang d'un point de vue sportif. Et ils font aussi face à de plus grandes difficultés économiques. Le cercle vicieux qui s'installe, c'est certain, ne va pas amener les jours heureux. Pour les Diables Rouges, la peine est aussi lourde à porter. L'équipe nationale se retrouve à devoir jouer l'Euro 84 sans ses stars. Vice-championne d'Europe en titre, l'équipe ne peut pas faire de miracle et se retrouve éliminée au premier tour. La donne aurait-elle été différente avec Gerets, Preud'homme ou Jos Dardenne aux manettes? Certainement. Et puis, il y a les victimes collatérales, dont personne ne parle. La plupart des joueurs suspendus vont retrouver, malgré la honte qui entache leur parcours, le chemin vers le succès. Leurs carrières respectives ne subissent pas de coups d'arrêt supplémentaires, mais tous n'ont pas cette chance. Ainsi, le capitaine de Waterskay, Roland Janssen, voit sa carrière s'effondrer. Son nom, trop associé à l'affaire, l'a certainement condamné. Et puis, impossible pour les différents acteurs du scandale de ne pas avancer avec une pointe d'amertume au fond de la bouche. En cause, certains comportements face à l'affaire, notamment celui du coach Goethals. Contrairement à Gerets, qui subit les foudres de la fédération, l'entraîneur laisse l'impression de ne pas avoir payé assez sa faute. Il est pourtant le moteur du scandale, son principal responsable. Sa suspension de 2 ans, pourtant, ne va pas l'empêcher de rebondir. Après l'épisode du scandale, Goethals va même connaître une carrière absolument fantastique. Une pige au Portugal avant un retour au pays, où il redevient même l'entraîneur des Mauves pendant 2 ans, à la fin des années 80. Il n'y gagne pas de titre, mais poursuit son parcours en France. D'abord avec les Girondins de Bordeaux, puis à l'OM. Sur la Canebière, il est finaliste de la Ligue des Champions en 1991. Mais c'est pas tout. 2 ans plus tard, il gagne la Coupe aux grandes oreilles, devenant l'un des plus grands coachs continentaux. Il remporte avec son équipe, dans le même temps, 2 fois le championnat de France. À ce propos, ne nous privons pas d'entendre le truculent Raymond Goethals.
Raymond, ce que vous allez faire maintenant, c'est fini. Parce que vous êtes déjà revenu quelques fois.
Non, parce que d'ailleurs, bon, il y a déjà un mois ou deux, Bernard Tapie m'avait déjà demandé de faire encore 1 an. Non, j'ai dit que je terminais pour moi. être déjà en finale de la Coupe des Champions était déjà une très belle fin. Maintenant, si je la gagne, ben, c'est l'apothéose.
On ne peut pas aller plus loin.
Alors, il vaut toujours mieux partir quand on vous demande de rester que faire l'année de trop.
Et qu'est-ce que vous allez faire, alors, Raymond?
Ça, vous verrez bien.
Ouais, mais vous allez venir en Belgique, Raymond, revenir chez nous.
Ouais, pas directement, je reste à Bon Soleil un peu. Hein.
Il y a un autre homme de cette affaire qui rebondit avec panache dans la suite de sa carrière, Eric Gerets. C'est aux Pays-Bas, surtout au PSV Eindhoven, que le barbu à la tignasse unique en son genre retrouve la joie des terrains. Il va même renouer avec les Diables, avec qui il arrête sa carrière internationale en 1991. Les Rouges, eux, s'enfoncent dans la crise. Ces groupes de supporters se radicalisent. Les hooligans de Liège, entre la fin des années 80 et le début des années 90, sont considérés comme les plus violents du royaume. Le monde du football, qu'il soit national ou européen, ne tourne pas la page des affaires en tout genre. Les Mauves, les grands rivaux des Rouges, ne vont pas échapper au poids du scandale, notamment au milieu des années 90. Des preuves vieilles de 13 ans permettent d'admettre que l'arbitre d'un match opposant le Sporting au club de Nottingham a été corrompu. Comme pour le Standard, la prescription empêche toute sanction directe contre le club, mais tout de même. Aujourd'hui, le Standard de Liège est de nouveau dans une période creuse. Deux nouvelles Coupes de Belgique remportées en 2016 et 2018 ne doivent pas éluder les grandes difficultés traversées par les Rouges. Victime de nombreux changements de propriétaire au fil des ans, en grande difficulté économique, l'équipe se base sur un vivier de jeunes importants et qualificatifs pour relever la tête. L'Union Saint-Gilloise, revenue d'entre les morts, le club de Bruges, beaucoup d'équipes se sont affirmées au fil des ans au sein de notre Pro League. Mais le sport, à la manière de l'histoire, est un cercle immuable. Elle se répète sans cesse. L'Union est le plus parfait exemple. Reste à savoir quand, enfin, le Standard de Liège retrouvera les plus hauts sommets, tout en laissant derrière lui définitivement les ombres de ces scandales honteux et marquants, aujourd'hui vieux de plus de 40 ans.